On est de retour, 14h43, on va parler de voitures. Je vais aller rejoindre mon collaborateur, chroniqueur automobile, Marc Bouchard est avec moi. Bonjour Marc.
Bonjour mon cher.
Bon là au moins on va avoir des propos intelligents en parlant de voitures, parce que mon dernière fois que j'ai parlé de voiture dans l'émission, c'est Mathieu Louca qui me disait que le monde était pour s'envoyer en l'air pendant que l'auto conduisait tout seul.
En fait, ça fait partie des études. On nous a dit en fait que les voitures autonomes étaient probablement les bordels de l'avenir.
Ben, ça se voyons donc. C'est une farce?
Non, pas du tout.
C'est sérieux comme nouvelle.
Ben oui, parce qu'imagine, t'as pas besoin de conduire.
Ouais.
OK? Donc, une prostituée de quelconque nature, plutôt que de se louer une chambre de motel, va faire ça à l'intérieur de sa voiture, va être capable d'aller te chercher chez toi, de se promener en ville avec des vitres teintées un peu embuées probablement avec le temps,
oui.
Et va te ramener chez toi tout simplement. Elle n'a pas besoin de conduire, elle n'a pas besoin de payer de chauffeur, il n'y a pas de témoin, et tu te déplaces en permanence.
On n'arrête pas le progrès, hein?
C'était pas le mot progrès que j'avais employé dans le cas.
Bon, alors ça veut dire que c'est les côtés un peu plus sombres des véhicules autonomes.
Oui, mais en fait, c'est, écoute, avant d'en arriver là, sincèrement,
on est loin.
Ça va prendre des décennies,
bon.
Là, parce que les voitures autonomes ne sont pas prêtes à circuler tant que ça et aussi librement dans n'importe quel secteur.
Bon.
Alors, t'es là, écoute, on n'est pas là, là, mais ça pourrait être une des applications.
Bon, alors je vois Richard Labelle soulagé de voir que ce ne sera pas dans son temps, lui. Il n'y aura pas la pression de s'envoyer en l'air comme ça. Alors, Marc...
Et on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer. Imagine pendant qu'on est en train de faire la chose,
oui.
Une autre voiture t'accroche.
Oui, 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 oui.
Les conséquences physiques peuvent être assez dommageables, je dirais.
Oui, peut avoir des dommages corporels majeurs. Oui, 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 oui. J'espère que la SAC assure ça, hein?
C'est ça. Bon, on nous a dit que c'était sans responsabilité. En tout cas, bref.
OK, les millénaux ont choisi quel critère pour sélectionner une voiture, ces millénaux-là?
Et ça, c'est particulier parce que c'est une étude qui a été faite auprès de des jeunes qui sont nés entre 1980 et 1995 ou à peu près. Et moi, j'étais sous l'impression que le premier critère que ces gens-là utiliseraient pour choisir une voiture, c'était l'économie de carburant.
OK.
Ben, pas du tout. En fait, au contraire, le premier critère, c'est le design. C'est le style. On dit que 40% des acheteurs de voitures entre 25 et 40 ans ou à peu près ont comme premier facteur de choix le design, le style.
C'est pas la marque?
Pas la marque, c'est vraiment l'allure. Parce que on s'intéresse moins aux marques. Maintenant, on est plus ouvert à des marques un peu moins connues, dont le nom est peut-être moins connu. Mais il faut vraiment que ça reflète notre personnalité.
OK.
La deuxième, c'est la connectivité.
Ah.
Donc, la capacité d'avoir accès à Internet, par exemple, directement à l'intérieur de la voiture, ce genre de trucs-là. Et le troisième, c'est le système de son.
Ah, oh, encore? Ah, oh, ouais.
Encore. Alors, parce que, bon, évidemment, maintenant, on utilise beaucoup là, des systèmes comme Spotify ou autre chose en écoute continue. Et ça devient, donc, d'une importance grandissante d'avoir un excellent système de son. Ça m'a beaucoup étonné. Autre élément qui m'a beaucoup étonné, 50% des milléniaux préfèrent avoir une berline compacte plutôt qu'un VUS.
OK. Jusqu'à temps qu'il y ait des enfants.
Jusqu'à temps qu'il y ait des enfants ou jusqu'à temps, en fait, qu'il y ait en haut 35 ans. Donc, c'est, ouais. Mettons, les 25-35, ouais. Eux préfèrent encore les berlines compactes parce que c'est des gens qui fréquentent davantage les milieux urbains.
Ouais.
Donc, qui aiment mieux avoir quelque chose qui est plus facile à stationner.
Ouais.
Et plutôt que d'avoir le VUS. Et le VUS, ben là, c'est quand ils arrivent à 35 ans,
ouais.
Ou avec des enfants, ben là, évidemment, ils sont plus sensibles à l'espace et à la sécurité.
Alors, 35 ans, quand tu es rendu en périphérie avec des petits pins chiens, puis tu as plein de choses à mettre dans l'auto, tu dis, ben, peut-être, ouais. Que la Audi TT, c'est plus pour moi.
Non, effectivement, mais c'est quand même étonnant parce que c'est le seul segment de la population, je dis bien le seul, même les plus jeunes ne sont pas là, c'est le seul à privilégier encore les berlines.
Je comprends.
Tous les autres segments veulent des VUS.
Même les plus jeunes?
Même les plus jeunes.
Ah, ça c'est intéressant.
Mais les plus jeunes, ce qu'ils veulent, c'est les VUS sous-compacts. Les nouveautés, là, le Honda HR-V, le Toyota CHR, le Mazda CX-3. Le Nissan Kicks, là. Puis d'ailleurs, quand tu regardes ces véhicules-là, tu sais, je pense au Nissan Kicks, par exemple, il arrive en version 2 tons avec le toit orange, la carrosserie grise. Il y a des haut-parleurs à l'intérieur de l'appui-tête du conducteur.
Okay.
Pour qu'il entende directement sa musique. Tu sais, on vise vraiment la clientèle des jeunes, là. Mais je pense qu'on a bien fait le travail parce que c'est vraiment, dans ce cas-ci, ce que les jeunes recherchent.
Mm-hmm.
Quand okay. même étonnant.
Oui.
Bonne nouvelle pour moi, oui. les journalistes automobiles sont la deuxième source d'information privilégiée par les milléniaux quand ils veulent s'acheter une voiture.
Oui, ben c'est bon parce que vous êtes impartial.
Mais la première, ce sont les sites de manufacturiers, on comprend pourquoi. Mais la troisième, et c'est tout près, là, parce qu'on dit 24% consultent les sites spécialisés, 23% vont sur les réseaux sociaux chercher les avis de leurs pairs.
OK.
Les fameux, tu sais, là, cherchent une recommandation d'eux, là.
Oui.
Ben ça, c'est 23% des achats qui sont faits en se basant là-dessus.
OK.
Et finalement, et ça, moi, ça m'a encore beaucoup étonné, 26% des milléniaux estiment que leur prochain achat, ils aimeraient ça que ce soit en autopartage. Et là, quand on parle d'autopartage, là, c'est les communautos de ce monde, c'est les car-to-go, où quand tu réserves ta voiture en ligne, avec une carte de membre, tu arrives sur un stationnement précis, tu présentes ta carte de membre, tu pars avec la voiture 2, 3, 5 heures, et tu reviens, tu la stationnes dans un autre endroit, puis ça finit là. Donc, tu n'es pas propriétaire de la voiture, tu n'en as l'usage que pour une période donnée.
Puis tu traces cette voiture-là comment?
Ben, à pied, là. En général, c'est que si on prend comme Car2Go, par exemple, qui fonctionne déjà à Montréal, notamment, et dans d'autres grandes villes du monde, ils ont des stationnements qui leur sont réservés en bordure de rue. Ils ont des espaces qui sont prévus à cet effet-là. Alors, quand tu réserves en ligne, on te dit, ben, écoute, la plus proche de toi, elle est à deux coins de rue, à telle place. Alors, tu te rends à cet endroit-là, et la voiture numéro 26 t'attend. Tu présentes ta carte, il y a un lecteur optique, là, et là, tu pars avec la voiture.
Eh ben, c'est comme ça que ça marche déjà.
C'est comme ça que ça marche déjà. Et on dit que 26% des milléniaux sont intéressés, diraient que leur prochain véhicule, ça devrait être en autopartage.
Eh bien, ça m'étonne un peu.
Ben moi, ce qui me fascine, en fait, c'est que oui, il y a ça, mais il n'y a pas du tout de consommation de carburant. Il n'est pas question de voitures électriques dans le choix des milléniaux.
C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis là.
Ils n'en ont pas parlé, pas du tout. Et ça m'étonne. Par contre, il y a une donnée qui est importante. Chez les milléniaux, soit en Amérique du Nord, là, 68% seulement ont un permis de conduire. Alors que dans ma génération, qui est, bon, un peu plus vieille, j'ai une fille milléniale, ça va te donner une idée, dans ma génération, c'était 96% qui avaient un permis de conduire.
Ah ouais. Ah ouais.
Alors, ça explique peut-être cela, c'est-à-dire que les gens qui sont plus sensibles à l'environnement n'ont pas pris de permis de conduire, ce qui explique que peut-être il n'en est pas question dans le sondage.
C'est pas fou. Il nous reste peut-être 3 minutes. Veux-tu nous parler de CA qui dit que les voitures sont vraiment pas prêtes pour l'hiver?
Ouais, ça c'est une étude en fait un peu... c'est une étude que CA a faite rapidement. Ils ont consulté, surtout dans la région de Québec, entre autres dans d'autres régions du Québec. Ils ont jeté un coup d'œil sur les voitures, ils ont fait le tour. Ils se sont aperçus que 25% des voitures québécoises n'étaient pas prêtes à affronter l'hiver. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas leurs pneus d'hiver dans bien des cas, et même quand elles ont leurs pneus d'hiver, elles n'ont pas l'équipement nécessaire ou n'ont pas été mises au point pour l'hiver. Donc, ça, souvent, les gens vont changer le pneu eux-mêmes. Là. À ce moment-là, ce qu'ils font, ben, c'est que l'alignement n'est pas nécessairement très, très bon. On n'a pas tout vérifié non plus à l'intérieur de la voiture. On n'a pas fait les changements d'huile.
Ouais.
On s'est pas assuré qu'on avait une batterie qui serait capable de supporter les moins 20 degrés. Donc, tous ces détails-là. Et on n'a pas, ce qui est fascinant, et ça, moi, j'ai trouvé ça très drôle, beaucoup des gens n'ont même pas les outils dans leur voiture pour déneiger la voiture, par exemple.
Ah bon?
Tu sais, aujourd'hui, là, il neige, là. Si t'es pris quelque part, t'as de la neige, c'est le fun de déneiger avec tes mains, là, mais c'est le fun d'avoir un balai, ça prend 2 minutes à le mettre dedans. Or, il semble que 25% des Québécois ne soient pas encore rendus là cette année.
C'est pas comme si que ça coûte bien cher, ça.
C'est pas que ça coûte bien cher, puis en même temps, je pense que c'est vrai que c'est de bonne heure le 13 novembre pour une chute de neige aussi importante, mais il faut quand même, tu sais, ça fait longtemps qu'on l'a vu venir, là. Donc on devrait normalement se préparer en conséquence.
OK, en une minute, Mercedes-Benz lance un véhicule hybride électrique hydrogène?
Ouais, ça c'est particulier parce qu'il y a comme une espèce de guéguerre entre les gens qui ont des hybrides, des véhicules branchables, puis l'hydrogène, et ceux qui prennent les branchables disent l'hydrogène c'est pas bon. Ben, Mercedes, eux autres, ont jumelé le meilleur des deux mondes. Donc c'est un GLC, donc c'est un utilitaire sport, qui va être bon pour 140 km une fois que tu l'as branché. Puis quand tu as vidé ta batterie, à ce moment-là, c'est l'hydrogène au lieu de l'essence. Donc ce que ça fait, c'est que tu as un véhicule qui va être bon pour 500 à 600 km sans aucune émission polluante, jamais. et sans que tu aies besoin de te préoccuper. Donc, tu vas pouvoir t'arrêter dans une station d'hydrogène et te faire le plein. Ça va coûter un peu plus cher, mais en tout cas, on commence à lancer ce véhicule-là en Allemagne au cours des prochaines semaines.
Ah ouais.
Et ça devrait suivre dans les autres pays. Et je te rappelle qu'il y aura des bornes d'hydrogène au Québec, à Montréal et à Québec au cours de la prochaine année. Donc, ça devrait peut-être faire une apparition chez nous aussi.
Penses-tu que ça va pogner?
Ben moi, je pense que c'est la solution idéale parce que t'as pas l'hydrogène, ça te permet de pas avoir les contraintes électriques, c'est-à-dire que si t'as pas de borne, ben t'es quand même bon pour 400-500 km, puis tu peux te brancher n'importe où. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, à mon avis. Si tu fais de la ville, ben tu touches pas à l'hydrogène, puis tu consommes à rien. Donc, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes.
Une question de Noun. Présentement, nos batteries, on les recharge quand on roule à l'essence. La batterie qu'on a, elle se recharge avec notre alternateur?
Oui, effectivement.
OK. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir une batterie électrique dans une voiture qui se recharge tout seul avec, par exemple, une propulsion hydrogène, là, mais qu'ultimement, on n'a pas besoin de la brancher? La voiture électrique est capable de s'auto-générer, mettons?
Ben, en fait, parce que tu as toujours une perte d'énergie. Tu sais, c'est pas l'énergie que tu dépenses ne pourra jamais être transférée dans la même énergie. OK, ça veut dire que ça peut pas
équivaloir quelque
part, là. Donc, okay. C'est là-dessus. Sauf que l'autre raison, c'est que ça se fait déjà. Ah. Quand on fait l'énergie du freinage, par exemple, on est capable de récupérer quelques kilomètres avec la batterie.
On en reparlera, je suis obligé de te laisser. Excuse-moi. Merci, Marc.
Okay,
merci, Marc. OK, bye. Marc Bouchard, chroniqueur automobile. C'est déjà tout. Je vous retrouve demain pour un autre solide comme le rock.